Chapitre 21. Alors même qu'elle talonnait son cheval et se préparait à lancer sa javeline meurtrière, Penthésilée constata qu'elle avait négligé deux points d'une importance capitale. Premièrement, aussi incroyable que cela paraisse, elle se rappela qu'Athénée ne lui avait pas précisé lequel des deux talons du tueur d'hommes était vulnérable et qu'elle n'avait même pas pensé à le lui demander. Elle avait supposé qu'il s'agissait du droit, telle était l'image qu'elle avait visualisée, Pélée saisissant le bébé par le talon droit pour l'arracher au feu céleste, mais Athénée s'était contentée de lui dire que l'un des talons d'Achille était mortel. Prévoyant qu'il lui serait difficile d'atteindre le talon du héros, même armé de la lance enchantée d'Athénée, il y avait peu de chances pour qu'Achille prenne la fuite en la voyant, Penthésilée avait ordonné à ses camarades amazones de s'en prendre aux Achéens placés derrière lui. Elle avait l'intention de frapper le tueur d'hommes au pied rapide au moment où il se retournerait pour recenser les morts et les blessés, comme le ferait tout capitaine digne de ce nom. Pour mener à bien cette stratégie, elle était obligée de se retenir, de laisser ses sœurs partir seules à l'offensive. C'était totalement contraire à sa nature de guerrière, car elle aurait dû être la première à porter le fer chez l'ennemi, et bien que tout eussent compris qu'il fallait agir ainsi pour abattre le tueur d'hommes, la reine n'en était pas moins rouge de honte lorsque les cavalières entrèrent en contact avec les hommes, son propre cheval restant en retrait derrière elle. Elle prit alors conscience de sa seconde erreur. Elle se trouvait sous le vent par rapport à Achille. Le plan de Penthésilée dépendait en partie du parfum offert par Aphrodite, mais ce crétin musculeux devait le sentir afin que ce plan s'accomplisse. Il faudrait que le vent tourne ou que Penthésilée se rapproche du guerrier blond jusqu'à le frôler pour que le charme finisse par opérer. Et merde ! Songea la reine des Amazones tandis que ses camarades tiraient leurs flèches et lançaient leurs javelines. « Je m'en remets aux moires, chacun pour soi et Hadès contre tous. Arès, père, protège-moi » Elle s'attendait à moitié à voir apparaître le dieu de la guerre, ainsi peut-être qu'Athénée et Aphrodite, puisque toutes deux souhaitaient qu'Achille périsse en ce jour. Mais on ne vit surgir ni dieu ni déesse, et les chevaux s'empalèrent sur des pics levés à la hâte, et les lances frappèrent des boucliers brandis dans la précipitation, et les irrésistibles Amazones se heurtèrent aux inébranlables Achéens. De prime abord, il sembla que la chance et les dieux favorisaient les Amazones. Nombre de leurs chevaux s'empalèrent sur les lances argiennes, mais tous franchirent les lignes ennemies. Quelques Grecs reculèrent, d'autres tombèrent. Les Amazones, qui cernaient à présent la cinquantaine de guerriers entourant Achille, donnèrent avec fougue de la lance et de l'épée. Clonia, celle de ses lieutenants que Penthésilée aimait entre toutes et la plus habile à l'arc de toutes les Amazones, lâchait flèche sur flèche à une vitesse surhumaine. Chacune de ses cibles se tenait derrière Achille, qui était contraint de se retourner chaque fois qu'un homme tombait. Ménippos s'effondra, une longue flèche en travers de la gorge. Son ami, le puissant Podarcès, fils d'Iphicle et frère du défunt Protésilas, tenta de planter sa lance dans la cuisse de Clonia, mais l'Amazone Brémusa l'en empêcha, fracassant son arme, puis lui coupant le bras au niveau du coude d'un puissant coup d'épée. Deux des sœurs d'armes de Penthésilée, Ewandra et Thermodoa, se retrouvèrent à terre. Leur destrier s'était dérobé sous elles, frappé en plein cœur par les lances achéennes, mais elles se relevèrent aussitôt, se placèrent dos à dos, empoignèrent leurs boucliers et résistèrent vaillamment aux assauts des Grecs déchaînés. Penthésilée s'aligna aux côtés de ses camarades Alcibia, Dermachia et Derion pour lancer la deuxième vague de l'assaut. Elles frappèrent les visages barbus qui grimaçaient derrière les boucliers. Une flèche achéenne vint ricocher sur le casque de Penthésilée, lui brouillant la vue l'espace d'un instant. « Où est Achille ?» Brièvement désorientée, la reine des Amazones finit par apercevoir le tueur d'hommes qui se trouvait à 20 pas de là, entouré de l'élite des capitaines achéens. Les deux Ajax, Idoménée, Odysseus, Diomède, Sthénélos, Théoucros. Poussant un cri de guerre, elle frappa les flancs de son cheval, l'encourageant à fondre sur l'ennemi. À cette seconde précise, la mêlée sembla s'éclaircir alors qu'Achille se tournait vers l'un de ses hommes, Evenor de Dilichium, que Clonia venait d'atteindre d'une flèche dans l'œil. Penthésilée vit alors les mollets d'Achille sous les lanières de ses jambières, ses chevilles crasseuses, ses talons calleux. La javeline d'Athénée sembla vibrer entre ses mains lorsqu'elle la leva pour la jeter de toutes ses forces. L'arme enchantée frappa le talon droit du tueur d'hommes aux pieds rapides et rebondit. Achille sursauta, se retourna et braqua sur Penthésilée des yeux d'un bleu glacial. Le sourire qu'il lui adressa était horrible. Les Amazones se battaient au corps à corps avec les Achéens et la chance commençait à tourner. Brémusa lança sa javeline sur Idoménée, mais le fils de Déucalion leva son bouclier d'un geste presque machinal et la lance se brisa en deux. Celle qu'il brandissait alla se piquer sous le sein gauche de Brémusa la Rousse, la traversant de part en part. Elle tomba de sa cavale écumante et une demi-douzaine d'Argiens de basse extraction se disputèrent son armure. Poussant un cri de rage à ce spectacle, Alcibia et Dermachia foncèrent sur Idoménée, mais les deux Ajax s'emparèrent des rênes de leur destrier, les contraignant à faire halte. Lorsque les deux Amazones s'empressèrent de mettre pied à terre, Diomède, fils de Tidée, les décapita d'un seul coup de sa puissante épée. Sous les yeux horrifiés de Penthésilée, la tête d'Alcibia, dont les yeux s'y étaient encore, roula aux pieds d'Odysseus, qui l'empoigna par les cheveux pour la brandir en riant. Sentant qu'un Argien quelconque la frappait à la jambe, elle lui plongea sa seconde lance dans le torse jusqu'à lui percer les tripes. L'homme s'effondra en poussant un cri muet, emportant son arme avec lui. Elle s'empara de sa hache de guerre et talonna son cheval, le guidant avec ses seules jambes. Dérion, qui chevauchait à sa droite, fut désarçonné par Ajax le Petit, fils d'Oïlée. Gisant sur le dos, le souffle coupé, elle allait ramasser son épée lorsqu'Ajax partit d'un grand rire et la cloua au sol d'un coup de lance, pesant de tout son poids sur elle jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Clonia tenta de lui loger une flèche dans le cœur. Elle s'écrasa sur son armure. C'est à ce moment-là que Théoucros, le fils bâtard de Télamon, l'archer suprême, l'atteignit de trois flèches presque simultanément. La première lui traversa la gorge, la deuxième perça son armure pour se ficher dans son ventre, la troisième s'enfonça si profondément dans son sein gauche que seul était visible l'empenne et trois pouces de bois. L'amie très chère de Penthésilée tomba morte au pied de sa cavale en sang. Euandra et Thermodoa étaient toujours debout, luttaient toujours dos à dos, quoique blessés, le corps en sang, à demi-morte d'épuisement, lorsque la marée achéenne reflua autour d'elle, laissant la place à Mérion, fils de Mol, ami d'Idoménée et commandant en second des Crétois, qui lança sur elle deux javelines, une de chaque main. Leurs lourdes pointes déchirèrent l'armure légère que portaient les deux femmes, et Thermodoa et Euandra mordirent la poussière. Toutes les Amazones étaient tombées. Penthésilée souffrait d'une centaine de plaies, mais aucune n'était mortelle. Les fers de sa hache étaient maculés de sang argien, mais cette arme était désormais trop lourde pour elle. Aussi y renonça-t-elle en faveur de son glaive. La voie était libre jusqu'à Achille. Comme pour obéir à la volonté d'Athénée, la javeline encore intacte qu'elle avait lancée sur le talon droit d'Achille se trouvait tout près de la patte antérieure droite de son cheval fourbu. En temps normal, la reine des Amazones n'aurait eu aucun mal à la ramasser, même sur un destrier lancé au galop. Mais elle était trop fatiguée, son armure était trop pesante et sa monture n'avait plus la force de courir. Aussi, Penthésilée se laissa-t-elle glisser le long de sa selle, se baissant pour ramasser la lance, alors que deux flèches lancées par Théoucros effleuraient son casque. Lorsqu'elle se releva, elle ne voyait plus personne excepté Achille. Les autres Achéens hurlant n'étaient que des masses floues.
« Lance-la encore !» dit Achille sans se départir de son horrible sourire.
Penthésilée mit toutes les forces de son corps dolent dans son jet, visant les cuisses nues et musclées d'Achille, bien visibles sous son splendide bouclier circulaire. Achille se baissa, vif comme une panthère. La lance d'Athénée se fracassa sur son bouclier. Immobile sur le sable, Penthésilée empoigna de nouveau sa hache, tandis qu'Achille, sans cesser de sourire, levait sa longue javeline, la lance légendaire que le centaure Chiron avait forgée pour son père Pélée, la lance qui ne ratait jamais sa cible. Achille frappa. Penthésilée leva son bouclier en croissant. La lame le transperça sans même ralentir, puis transperça son armure, déchira ses chairs, ressortit dans son dos
et s'enfonça dans le thorax de sa monture, lui transperçant également le cœur. La reine des Amazones et son destrier churent ensemble dans la poussière, les jambes de Penthésilée s'envolant dans les airs pour se retrouver un instant parallèle à la lance fichée dans sa poitrine. Achille s'approcha, l'épée à la main, et Penthésilée s'efforça de ne pas le perdre de vue à mesure que le monde s'enténébrait devant elle. La hache tomba de ses doigts gourds.
« Bordel de merde !» murmura Auchenberry.
« Amen !» fit Manmut.
L'ex-scoliaste et le petit Moravec ne s'étaient pas éloignés d'Achille durant tout le combat. Ils le rejoignirent tandis qu'ils contemplaient le corps encore convulsif de Penthésilée.
« Tum soiwa amazon ultimus kekidit netus !»
murmura Auchenberry.
Puis tomba la cruelle, l'Amazone, et avec elle enfin nos dernières terreurs.
« Encore Virgile ?»
demanda Manmut.
« Non, Pyrrhus dans les Troyennes de Sénèque. »
Il se produisit alors une fort étrange chose. Tandis que divers Achéens se massaient autour de Penthésilée pour la dépouiller de son armure, Achille croisa les bras et se planta devant elle, ouvrant grand ses narines comme pour humer l'odeur de sang, de sueur et de mort. Puis, le tueur d'hommes aux pieds rapides porta ses mains à son visage, se voila la face et se mit à pleurer. Ajax le Grand, Diomède, Odysseus et les autres capitaines, qui étaient venus voir de près la reine des Amazones, s'écartèrent stupéfaits. Indifférent aux sanglots du demi-dieu, cette face de rat de Tersite et ses acolytes continuèrent à détrousser la guerrière, arrachant son casque à sa tête dodelinante et laissant couler en cascade ses longues boucles blondes. Rejetant la tête en arrière, Achille partit d'un gémissement rappelant celui qu'il avait poussé lorsqu'Auchenberry, déguisé en Athénée, avait censément tué et kidnappé Patrocle. Les capitaines s'écartèrent un peu plus de la femme morte et de son cheval mort. D'un coup de couteau, Tersite trancha les lanières maintenant en place le plastron de Penthésilée, entaillant la douce chair de la reine dans son empressement de charognard. Elle était maintenant presque nue, son corps meurtri et tailladé, mais toujours parfait, n'étant plus recouvert que d'une jambière, d'une ceinture d'argent et d'une sandale. La lance de Pélée la clouait toujours à la carcasse de sa cavale, et le fils de Pélée ne faisait pas mine de la reprendre.
« Écartez-vous !» dit Achille.
La plupart des hommes lui obéirent sur le champ. Le répugnant Tersite, qui tenait calé sous un bras l'armure de Penthésilée et sous l'autre son casque ensanglanté, ricana grassement tout en la dépouillant de sa ceinture.
« Ah, comme tu es stupide, fils de Pélée, de sangloter ainsi sur cette salope, de pleurer bêtement sa beauté. Désormais, elle n'est plus bonne qu'à engraisser les asticots. »
« Écarte-toi, » dit Achille d'une voix horriblement monocorde.
Les larmes sillonnaient ses joues maculées de poussière. Enhardi par cette démonstration de sensibilité féminine, Tersite fit celui qui n'avait pas entendu et tira sur la précieuse ceinture d'argent pour la dégager. Ce faisant, il imprima un mouvement saccadé aux hanches de Penthésilée, qui l'accompagna de façon obscène, comme s'il voulait copuler avec le cadavre. Achille avança d'un pas et le frappa de son poing nu, lui fracassant la pommette et les mâchoires, faisant jaillir de sa gueule de rat jusqu'à la dernière de ses dents jaunies et l'envoyant voler au-dessus de la reine et de son cheval pour atterrir dans la poussière où il se mit à cracher le sang par le nez et la bouche.
« Il n'y aura pour toi ni tombe ni tumulus, espèce de bâtard !» déclara Achille. « Tu t'es naguère gossé d'Odysseus, et Odysseus t'a pardonné. » Tu viens de te gosser de moi et je t'ai tué pour ta peine. Nul ne peut railler impunément le fils de Pélée. Va, descends dans l'Hadès, que les ombres savourent à leur tour ton esprit si fin. »
Tersite s'étouffa sur son sang et sa bile, puis il mourut. Lentement, presque amoureusement, Achille retira sa lance de la terre, du cadavre du destrier, puis du corps tremblant de Penthésilée. Tous les Achéens reculèrent à nouveau d'un pas, interdits devant les pleurs et les gémissements du tueur d'hommes.
Aurea qui postquam nudavit, Cassida frontem, wicit victorem, candida forma virum,
murmura Oakenberry. Quand elle eut dépouillé son front du casque d'or, elle triompha par sa beauté de son vainqueur lui-même. Se tournant vers Manmuth, Élégie de Prosperse, livre 3e, 11e poème. Le Moravec lui tirailla la main.
Quelqu'un va composer une élégie en notre honneur si nous ne filons pas d'ici, et vite.
Pourquoi ?
Fit Oakenberry en regardant autour de lui. Les sirènes hurlaient. Les soldats Roquevec se mêlaient aux armées achéennes en mouvement pour les encourager à franchir le trou au plus vite, à grand renfort de signaux d'alarme et d'appels lancés à plein volume. C'était la retraite générale. Chars et fantassins couraient vers le trou, mais ce n'était pas les haut-parleurs Moravec qui avaient déclenché la manœuvre.
Olympos entrait en éruption.
La terre, enfin, le sol martien, était secoué par un séisme. L'air était imprégné de soufre. Derrière les guerriers troyens et achéens, le sommet d'Olympos rougeoyait sous son égide, et des colonnes de flammes en jaillissaient sur une hauteur de plusieurs kilomètres. On apercevait déjà des coulées de lave sur les hauteurs d'Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire. On voyait s'élever un nuage de poussière rouge, on sentait monter l'odeur de la peur.
« Que se passe-t-il ? » demanda Oakenberry.
« Les dieux ont déclenché une sorte d'éruption là-haut, et le trou de Bran va disparaître d'une minute à l'autre, »
répondit Manmuth. Prenant Oakenberry par la main, il s'éloigna de l'endroit où Achille venait de s'agenouiller devant Feu, la reine des Amazones. Toutes les guerrières avaient été dépouillées de leur armure et, à l'exception du groupe de capitaines achéens, les guerriers fonçaient à toutes jambes vers le trou.
« Il faut que vous fichiez le camp !»
dit la voix d'Orfudio sur le faisceau cohérent.
« Oui !»
émit Manmuth.
« On voit l'éruption jusqu'ici !»«
Ce n'est pas le pire !» À en croire nos mesures, l'espace de Calabillo est en train de se replier pour former un trou noir et un trou de verre. Les vibrations des cordes sont totalement instables. Peut-être qu'Olympus Mons ne va pas pulvériser cette région de Mars, mais le trou de Bran disparaîtra dans quelques minutes à peine. Récupère Oakenberry et Odysseus et amène-les dans le vaisseau.
Manmuth fouilla du regard la masse confuse d'armure et de muscles, puis repéra Odysseus à une trentaine de pas en grande conversation avec Diomède.
Odysseus ? Oakenberry n'a pas eu le temps de discuter avec lui, encore moins de le convaincre de nous accompagner. Avons-nous vraiment besoin d'Odysseus ?
C'est ce qu'a conclu l'analyse de l'intégrateur Prime,
répliqua Orphée.
Au fait, ton capteur vidéo est resté branché durant tout le combat. Sacré spectacle !
Pourquoi avons-nous besoin d'Odysseus ?
Insista Manmuth. Le sol trembla de plus belle. La mer naguère placide devenait agitée. Des gerbes d'écume fleurissaient parmi les récifs.
« Comment le saurais-je ? »
gronda Orfudio.
« Tu me prends pour un intégrateur prime ! »
« As-tu une idée de la façon dont je dois m'y prendre pour persuader Odysseus de quitter ses amis, ses camarades et la guerre en cours pour se joindre à nous ? Dans une minute, tous les capitaines, à l'exception d'Achille, auront regagné leur char pour passer de l'autre côté du trou. L'odeur de soufre et les grondements du volcan sèment la panique chez les chevaux. Et chez les hommes aussi, d'ailleurs. Comment pourrais-je capter l'attention d'Odysseus en un moment pareil ?
Un peu d'initiative,
émit Orphée.
Ce n'est pas cela qui a fait la renommée des commandants de sous-marins sur Europe. L'esprit d'initiative.
Secouant la tête, Manmuth se dirigea vers le centurion en chef Mepahu qui exhortait les Achéens à s'engouffrer dans le trou de Bran. En dépit de ces haut-parleurs, la cacophonie ambiante, volcans, sandales et sabots, étouffait presque totalement sa voix, ce qui n'empêchait pas les humains de fuir à toutes jambes.
« Centurion en chef ?»
demanda Manmuth en établissant la liaison sur le canal tactique. Le Roquevec mit sa carcasse de 2 mètres de haut en position de garde à vous.
« À vos ordres !»
En théorie, Manmuth n'exerçait aucun commandement dans l'armée Moravec, mais en pratique, les Roquevec le considéraient, ainsi qu'Orfu, comme l'équivalent d'un haut gradé tel que le légendaire Astic Tché.
Montez à bord de mon frelon et attendez de nouvelles instructions.
À vos ordres.
Confiant à l'un de ses congénères le soin de poursuivre sa tâche, Mepahu gagna l'aéronef au petit trot.
Je dois convaincre Odysseus de monter à bord du frelon,
hurla Manmuth à Oakenberry.
Voulez-vous m'aider?
Hockenberry, dont les yeux allaient du sommet embrasé d'Olympus au trou de Bran frémissant, accorda au petit Moravec un regard distrait, mais acquiesça et se dirigea vers le groupe de capitaines achéens. Manmuth sur les talons, il dépassa les deux Ajax, Idoménée, Théoucros et Diomède, pour s'arrêter devant un Odysseus qui contemplait Achille d'un air soucieux. Le rusé tacticien semblait perdu dans ses pensées.
« Débrouillez-vous pour qu'il monte à bord !» chuchota Manmuth.
« Fils de Laerte !» lança Hockenberry.
Odysseus se tourna vivement vers lui.
« Qu'y a-t-il, fils de Duhan ?»«
Nous avons des nouvelles de ton épouse. »«
Quoi ?»
Un rictus aux lèvres, Odysseus empoigna son épée.
« De quoi parles-tu ?»«
De ton épouse, Pénélope, la mère de Télémaque. Elle nous a fait parvenir un message grâce à la magie Moravec. »«
Rien à foutre de la magie Moravec !»
gronda Odysseus en jetant un regard noir à Manmuth.
« Va-t'en, Hockenberry, et emmène cette abomination avec toi, avant que je vous vide tous les deux de la gorge au génitoire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pensé que vous étiez en partie responsable de notre présente infortune, ces Moravec et toi.
« Pénélope te prie de te rappeler ton lit !»
improvisa Hockenberry. Il espérait avoir conservé des souvenirs fiables de l'Odyssée. En règle générale, il se cantonnait à l'Iliade et laissait son collègue Smith enseigner la seconde épopée homérique.
« Mon lit ?»
fit Odysseus en s'écartant des autres capitaines.
« Qu'est-ce que tu racontes ?»«
Elle affirme que si nous te décrivons ton lit nuptial, cela te convaincra que le message émane bien d'elle. »
Odysseus tira son épée du fourreau et en posa la lame affûtée sur l'épaule d'Hockenberry.
« Tu ne m'amuses pas. Décris-moi ce lit.
À chaque nouvelle erreur, je trancherai un de tes membres. »
Hockenberry résista à l'envie de fuir ou de se souiller.
« Le cadre de ce lit, nous a dit Pénélope, est incrusté d'or, d'argent et d'ivoire, et tu y as tendu des courroies d'un cuir rouge éclatant pour tenir en place les 12 couvertures. »
Cette description conviendrait à toute couche royale. Va-t'en.
Diomède et Ajax le Grand suppliaient Achille, toujours à genoux, de les suivre et de laisser là le cadavre de la reine des Amazones. Le trou de Bran vibrait de façon nettement perceptible et son pourtour devenait flou. L'éruption était si bruyante qu'on devait hurler pour se faire entendre.
Odysseus, insista Hockenberry, c'est important. Entends le message que t'adresse la belle Pénélope.
Le petit homme barbu tourna des yeux furibonds vers le scoliaste et le Moravec. Il brandissait toujours son épée.
« Dis-moi où j'ai déplacé le lit après que mon épouse et moi fûmes entrés dans notre demeure, et peut-être garderas-tu tes bras. »«
Il n'a jamais bougé !»
répondit Hockenberry, dont le cœur battait la chamade, mais dont la voix demeurait ferme.
« Quand tu as bâti ton palais, nous dit Pénélope, il poussait au centre de l'enceinte un vigoureux olivier, là où se trouve aujourd'hui votre chambre. » « Tu as coupé la frondaison de cet olivier, nous dit-elle, tu en as équarri le fût jusqu'à la racine, et tu l'as pris pour montant ou cheviller le reste. Telles sont les paroles qu'elle a prononcées afin que tu saches que le message émanait bel et bien de sa bouche. »
Odysseus garda les yeux fixés sur lui durant une longue minute, puis il remit son épée au fourreau et dit
« Donne-moi ce message, fils de Duhan, et fais vite !»
Il leva les yeux vers le ciel assombri et l'Olympe rugissant. Soudain, un escadron de frelons et d'appareils de transport surgirent au travers du trou, conduisant en lieu sûr les techniciens Roquevec. Une série de banques supersoniques secoua le sol martien, et les hommes en fuite se baissèrent et se protégèrent la tête par réflexe.
« Retirons-nous près de la machine Moravec, fils de Laerte. Il s'agit d'un message confidentiel !»
Se frayant un chemin dans la masse de guerriers en fuite, ils se dirigèrent vers l'aéronef noir, dont le train d'atterrissage évoquait des pattes d'insectes.
« Maintenant, dépêche-toi !»
ordonna Odysseus en refermant sa poigne sur l'épaule d'Hockenberry.
« Vous avez votre taser ?»
demanda Manmuth à Mepahou.
« Affirmatif. »
« Étourdissez Odysseus et chargez-le à bord du frelon. Prenez les commandes. Nous partons immédiatement pour Phobos. »
Le Roquevec toucha la nuque d'Odysseus, une étincelle crépita, et le colosse barbu s'effondra dans les bras barbelés du soldat Moravec. Mepahou le glissa dans l'habitacle, puis bondit dans celui-ci et activa les répulseurs. Après avoir jeté un regard autour de lui, aucun des Achéens n'avait remarqué l'escamotage d'un de leurs capitaines, Manmut gagna le frelon à son tour.
« Venez !»
lança-t-il à Oakenberry.
« Le trou va s'effondrer d'une seconde à l'autre. Si vous ne vous remuez pas, vous serez piégé sur Mars jusqu'à votre dernière heure. »
Un regard vers le volcan.
« Qui ne tardera pas à sonner si ça continue comme ça ?»«
Je ne pars pas !» déclara Oakenberry.
« Ne soyez pas ridicule !»
s'emporta Manmut.
« Regardez donc autour de vous. Tous les ponts achéens, Diomède, Idoménée, les deux Ajax, Théocros, ils sont tous en train de fuir !»«
Tous, sauf Achille !» dit Oakenberry en s'approchant pour se faire entendre. Il commençait à pleuvoir des braises volcaniques qui tambourinaient sur la coque du frelon.
« Achille a perdu l'esprit !»
répliqua Manmut.
« Et si j'ordonnais à Mepahou de l'étourdir lui aussi ?»
se demanda-t-il. Comme s'il avait lu dans son esprit, Orphu le contacta par faisceau cohérent. Manmut l'avait oublié, mais il transmettait toujours images et sons en temps réel à Phobos et à la reine Mab.
« Abstiens-toi d'user de la force, » émit-il. « Nous lui devons bien cela. Qu'il prenne sa décision tout seul. »«
Quand il l'aura fait, il sera mort !»
répliqua Manmut.
« Il l'a déjà été. Peut-être souhaite-t-il l'être à nouveau. »«
Allez, montez !» lança Manmut. « Nous avons besoin de vous sur le vaisseau terrien, Thomas !»
Oakenberry tiqua en l'entendant prononcer son prénom. Puis il fit non de la tête.
« Vous ne voulez pas revoir la Terre ?»
cria le petit Moravec. Le frelon commençait à être secoué par les vibrations sismiques du sol martien. Des nuages de cendres et de soufre tourbillonnaient autour du trou de Bran, qui semblait avoir rétréci. Manmut se dit que s'il réussissait à capter l'attention d'Oakenberry pendant une ou deux minutes, l'humain n'aurait pas d'autre choix que de l'accompagner. Oakenberry s'écarta du frelon et désigna d'un geste les derniers des Achéens en fuite, les cadavres des Amazones et de leurs chevaux, les lointaines murailles d'Ilium et les armées qui s'affrontaient devant elles, à peine visible par-delà le trou de Bran à présent animé de fortes oscillations.
« C'est moi qui ai causé ce foutoir, ou du moins j'y ai contribué. Je me dois d'essayer de réparer les dégâts. »
Manmut désigna lui aussi la bataille qui faisait rage.
« Ilium est perdu, Oakenberry. Les Rockvec ont évacué leur champ de force, leur défense aérienne et leur champ anti-TQ. »
Oakenberry sourit tout en se protégeant le visage des projections de braises et de cendres.
Et quoi wagos winkina prospiciens, skitas ripam caterwis, ponticam widuis ferit exis afero est, perganum incubuit sibi!
Cria-t-il.
Je hais le latin,
songea Manmut.
Réflexion faite, je hais les latinistes distingués. Encore Virgile?
Demanda-t-il.
Sénèque! Rétorqua Oakenberry. Et même celle, Panthésilée, bien sûr, celle que les cistes nomades aperçoivent au loin, courant là-bas, au bord de la mer Noire, avec ses troupes de femmes sans époux. Mais à la fin, le fer l'a transpercée, Pergame, c'est-à-dire Ilium, trois, Pergame et tu t'es affaissé.
Venez et grouillez-vous le cul, Oakenberry!
Bonne chance, Manmut, dit l'intéressé en reculant. Donnez le bonjour de ma part à la Terre et à Orphu. Ils me manqueront tous les deux.
Il fit demi-tour et se mit à courir au petit trot, passant sans s'arrêter près d'Achille qui pleurait toujours devant le corps de Panthésilée. Le tueur d'hommes était désormais seul parmi les morts, tous les vivants ayant fui. Puis, alors que le frelon de Manmut décollait et filait vers l'espace, Oakenberry fonça à toutes jambes vers le trou qui commençait visiblement à se refermer.